RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La vie est drôle lorsqu'on sait en rire, mais elle devient dramatique dès lors que l'on cesse de s'en moquer ». Quelle joie que de recevoir cet homme aux multiples talents, humoriste, comédien, réalisateur, auteur et producteur qui nous fait hurler de rire depuis 25 ans à travers ses œuvres, plus hilarantes les unes que les autres.
Lourde, la liste est longue.
Très longue même. Au cinéma, comme sur scène, à la télé ou sur le net, cet artiste extrêmement lucide nous régale de ses fines et très pointues analyses sociétales qu'il traite avec cynisme, justesse et drôlerie. Son affaire là...
C'est psychologique.
Psychologique. Il me semble que la racine de son inspiration florissante provient de deux sentiments. La tristesse, car...
La réalité, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent.
Et l'amour. Oui, l'amour. Car il est empathique, au point où il s'est incarné magistralement une pléiade de profils, de caractères et personnalités. Et comme...
Vaut mieux être schizophrène qu'être mal accompagné.
Il se glisse aisément dans les costumes de dictateur, papa bobo Montessori, en passant par le gentil loser, jusqu'au commissaire de police, en n'ayant de cesse que d'élargir son spectre, tel un caméléon qui utilise son environnement pour survivre.
Pau, pau, c'est la seule issue.
Alors il célèbre les siens et en profite à nouveau à travers ce long métrage pour déclarer son amour inconditionnel au Cameroun et à ses ancêtres. Je crois que s'il avait fait du rap, il aurait pu puncher.
Je vais pas rentrer dans l'histoire, enfoiré, moi je veux l'écrire.
Et pour tout cela, mon frère, je te salue. Voilà.
Merci.
Ouais. Il nous fait l'honneur de sa venue dans les studios de Légendes Urbaines. Juste pour vous, messieurs, dames, le grand Thomas Dijon. Coute ça.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Appel d'urgence en signalant le meurtre de l'officier de police Albert Koumné.
Ça veut dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. C'est.
Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots.
Commissaire Bilong.
Son surnom, c'est Blacky.
Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé.
On peut travailler dans des conditions pareilles.
Monsieur Thomas Dijon dans les studios de Légendes Urbaines. Thomas, bienvenue chez toi. Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien. Après cette présentation-là, quand même, il faut l'encaisser. Mais ça va, j'étais sur mes appuis. Ça fait plaisir. Merci encore.
C'est un plaisir. Ouais, je me sens un peu gêné. C'est pas ton...
Non, enfin, on n'est pas dans l'auto-congratulation. Tu vois, c'est un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais... Mais non, et puis après, il y a un moment où aussi, tu te rends compte quand même que tu as fait aussi des choses. Tu sais, on ne se retourne pas tellement dans ce métier. En tout cas, moi, je ne me retourne pas, je fais, j'avance. Et c'est vrai que quand on te rappelle des choses, bah, c'est un peu tout. C'est pas un peu, c'est touchant, en fait. Voilà.
Et tu le mérites. Tu mérites ces choses-là. Ça fait 25
Merci.
Ans que tu charbonnes. On va en parler. On va revenir au début, avant de parler d'Indomptable, qui sortira le 11 juin prochain.
Mmh.
Rituel, hein. T'es né dans le 12e, à Paris.
Ouais.
T'as grandi à Maison-Alfort, dans le 94. Tes parents sont nés au Cameroun. Quatrième d'une fratrie de trois frères et trois sœurs.
Exactement.
Ton papa était sociologue.
Ouais.
Et ta maman, infirmière.
C'est ça.
Donc, ce sont des personnes qui étaient tournées vers les autres et sur la psychologie. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'en bons parents camerounais, on était aussi sur... des valeurs de science, en tout cas de culture, d'importance, de la transmission, la politique, de plein de choses. Comment ça se passait quand tu étais petit à la maison?
Il y avait beaucoup de choses. Mais après, c'est surtout le côté... au final, ma mère, c'était une mère, quoi, comme il y en a partout. Donc, elle s'occupait de ses enfants. Elle finissait ses études d'infirmière, justement. Donc, elle était un peu en train de finir ses études et en même temps s'occuper de nous. Mon père, lui, aussi, je crois qu'il finissait ses études. Il avait 15 000 métiers, mon père. Mais après, le truc qui rythmait l'enfance, c'était que... Bah, eux, c'était la génération d'immigrés, quoi. Ils venaient à une certaine époque. Il y avait toujours des... Dans tous les foyers africains, c'était la même chose. Il y avait des réunions politiques les dimanches, quoi. Il y avait des oncles qui arrivaient de nulle part. Il y avait une bière, il y avait du poulet, des beignets. Et puis, ça parlait de... de nous, c'était Amadou Ahidjo et machin, et Sankara, et voilà, et tous les dirigeants politiques de l'époque, voilà. Donc c'était beaucoup de discussions politiques. Je me rappelle que c'était au moment où il y avait 7 sur 7 Anne Sinclair que les mecs commençaient à se barrer de la maison. Donc c'était long. Mais c'était bien.
On va revenir sur, justement, cette notion de transmission. T'as fait un DUG, t'as fait des études pour devenir instituteur en école primaire. T'as même eu un emploi jeune, donc t'as travaillé un petit peu en école primaire. T'étais vraiment parti pour être dans l'éducation nationale. C'est un métier difficile, particulièrement quand on veut être professeur des écoles, en fait.
Ouais.
Donc t'as toujours eu envie, cette fibre qui est celle de la transmission, en fait. Et t'as une vraie connexion avec les enfants.
Ouais, ça c'est une chance dont je me suis rendu compte quand j'étais justement éducateur. Au départ, j'étais déjà animateur dans mon quartier. J'étais animateur, je sais pas comment on disait à l'époque, dans la salle de sport, là, tu vois.
Ouais, animateur dans une MJC, une maison de quartier.
Pas maison de quartier, j'étais plus dans les gymnases après les cours ou pendant les vacances. Donc j'ai fait ça peut-être 2 ans. Et déjà là, je kiffais bien, en fait, parce que j'ai un rapport avec les jeunes qui étaient cool. Tu sais, j'étais pas l'ancien...
Le relou,
tu vois. Eh, vas-y, machin. Moi, j'étais cool, donc... ça se passait bien avec les jeunes. Donc déjà, là, je sentais qu'il y avait un truc cool. Et après, quand j'étais avec les enfants, ouais, je me suis pris un peu de passion au truc. Je me suis dit, j'aimerais bien, entre guillemets, avoir un prof un peu comme moi. Tu vois, non pas que ceux que j'ai eus étaient mauvais. Il y en avait des très bons, d'autres moins bien ou quoi. Mais là, je me suis dit, tiens, un mec, tu vois, qui pourra comprendre entre les lignes certaines choses, ça peut être utile, peut-être. Je dis pas que je veux... sauver des vies, mais peut-être que ça, il y a des enfants, peut-être que je veux leur éviter d'être un peu déscolarisés dans leur tête, quoi, tu vois. Donc, du coup, je m'étais mis un peu ça à fond dans la tête et je me suis dit, allez, passe ton DUG, passe ta licence à l'époque. Après, j'étais trop absorbé par mon autre passion qui m'amène là aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, quand j'évoluais dans tout ça, de l'autorité naturelle que je pouvais avoir sur les enfants, tu vois, de prise de parole où des fois il y avait des silences. Moi, je ne savais pas tout ça, tu vois. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que c'est des métiers... ce n'est pas des métiers où on va au hasard. Moi, j'ai vu des profs en dépression. Ce n'est pas marrant, en fait, ni pour les élèves et ni pour eux. Et il y en a pour qui vont des fois en sécurité de l'emploi, malheureusement.
Et il y en a qui vont avec de l'angoisse et une boule au ventre parce qu'ils ne savent pas faire, et qu'il n'y a pas cette connexion,
C'est ça. C'est très dommage et c'est malheureux. Mais il y en a, ils ne sont pas faits pour ça. Et on ne peut pas ne pas être fait pour ça. Pour ce genre de métier. Parce qu'en fait, on a la vie d'enfant entre les mains, on a des années fondatrices entre les mains, et si tu ne donnes pas envie à un enfant à ce moment-là, s'il est en souffrance à ce moment-là, ça peut être vraiment destructeur pour la suite de son parcours. Donc, vraiment, moi, c'est des sujets qui me touchent, c'est des sujets sur lesquels, même jeune, je me disais, voilà, si ça ne marche pas, ton truc de comédien ou quoi en caisse, si tu es là, tu es bien, parce que tu es utile. Et puis, tu auras ta carte à jouer dans ce monde, dans cette société, quoi.
Tu dirais quoi au Thomas d'il y a 30 ans, au Thomas qui avait 15 ans, aujourd'hui, avec du recul?
Tranquille. Je dirais tranquille, mon gars, t'arrêtes d'angoisser.
Ça va bien se passer.
Exactement. Ouais, ce sera la seule chose que je lui dirais. Pour le reste, fais ce que t'as à faire. Parce qu'une fois de plus, je me répète, mais j'ai une jeunesse heureuse, vraiment. J'ai eu la chance d'avoir mes parents dans le foyer... J'avais des frères qui avaient chacun leur caractère, chacun leur personnalité, mais c'était pas conflictuel à la maison entre nous. J'ai des amis que j'ai toujours aujourd'hui. J'ai eu des copines. j'ai eu des sorties. J'étais passionné de foot, je le suis toujours. J'ai vécu, sans être professionnel, des moments incroyables de football. C'est comme si j'ai une carrière de foot, sauf que j'ai pas de carrière. Mais j'ai quand même une carrière. Je suis comme le seul mec de mon quartier à avoir fait officiellement un jubilé. C'est abstrait pour certains, mais moi, j'en ai fait un avec tout le quartier qui était là. Donc bref, non, j'ai une bonne jeunesse. Donc du coup, je dirais juste, faut pas t'angoisser, mon gars. Tu vois, fais ce que t'as à faire dans la vie et tout se passera bien, quelle que soit l'issue. Même si t'es pas comédien, même si t'es pas ceci, cela, on s'en fout, au final. L'important, c'est que tu sois en paix, que tu sois bien.
Si je te fais écouter ce titre-là, ça t'évoque quoi?
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui
surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, l'opinaire aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du 8ème, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a John 4 dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le tia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du 8ème, le HLM.
Renaud, mon HLM. Ah bah ça m'évoque mon HLM. Ça m'évoque mon HLM pour le coup, parce que... Alors je veux pas faire... Je veux pas faire le... Ah mon HLM, mon... Enfin moi mon immeuble était génial, hein. Moi j'ai vécu dans mon donc ma cité HLM, dans, je parlais que de mon immeuble, parce que sinon je pourrais parler une heure, mais mon immeuble de mon palier, plus spécialement mon palier. Et ouais, dans mon palier à l'époque c'était génial, parce que c'était vraiment la chanson de Renaud, quoi. Il y avait tout, il y avait les prolos blancs qui gueulaient, il y avait la famille Feuge, il y avait les Arabes qui... Il y avait toutes sortes de familles arabes. Non, mais en fait, il y avait tout. Mais en fait, quand t'es petit, c'est drôle, parce qu'on était angoissés. Il n'y avait pas de vanne, en fait, quand on était petit. Tu disais, ils sont timbrés, en fait. Tu vois, tu dis, eux, ils sont timbrés. Eux, ils crient, c'est des beaufs. Eux. Mais il y avait vraiment un respect. Il y avait l'autre avec son chien. Il y avait... Et avec du recul, ça, c'était un mec, en plus, tu vois, il y avait toutes sortes de personnes, et il y avait une personne qui a été fondatrice dans le métier que je suis aujourd'hui, qui a été connue dans le métier sous le nom de Jean-Roger Milhaud, un comédien qui a joué dans Germinal, dans L627, et qui est très connu, en fait, de beaucoup de gens de la profession, et il habitait dans mon immeuble. Il s'appelait Saoud, il s'appelait pas Jean-Roger Milhaud, il a pris un nom français pour des raisons qu'on imagine,
ouais, bien sûr.
À l'époque, en tout cas. Et Saoud, il était au premier étage de mon immeuble, avec son père qui était un Chibani. Et c'était Joe l'Indien dans mon quartier, Saoud. Quand il arrivait, tout le temps, tout s'arrêtait. Il était dangereux. C'était un mec très, très... On voyait sa gueule, de toute manière, il arrêtait le temps. Et ce mec-là, quand il parlait à mon père, mon cœur, il battait à 200 à l'heure. Et ce mec-là, c'est quand même fou que moi, le petit noir, c'est ça que je disais dans un spectacle, il nous appelait ça, le petit noir, quand il nous croyait, il prenait même pas le temps de dire ton prêt, ouais, petit noir, cassez-vous. Et ce mec-là, quand je l'ai vu au cinéma, c'était une révélation, en fait. Je l'ai vu dans Germinal, mon frère m'a dit, mais c'est Saoud. Je dis, ah bon? Je dis, mais oui, c'est Saoud. Je dis, ah ouais. Et je sais que ces mecs-là, ils ont fait partie de mon inspiration. Je suis pas là par hasard. Ce mec-là, il a œuvré à ce que je prenne aussi le risque de faire ce métier, c'est sûr. Donc, paix à son âme.
Paix à son âme.
Ouais.
Dans tes inspirations, il y a tes deux grands-mères qui sont en photo chez toi aujourd'hui. Et tes grands-mères qui te rappellent que finalement, elles se sont sacrifiées pour que tes parents puissent venir ici. Et puis toi, finalement, à ton tour, tu veux être à la hauteur. Et c'est aussi un important dans ton état d'esprit, dans ton parcours, de se dire, OK, de ne pas oublier, en fait... Que tu vois, le monde n'a pas commencé à toi, il a commencé à tes parents, à tes ancêtres, tes papas aujourd'hui de 4 filles, t'as un papa gâteau, c'est 5 filles à la maison, pour te dire que ton minorité.
En territoire occupé.
Qu'est-ce que tu transmets? En tout cas, je fais encore un énorme coucou à Carole Rocher, ma sœur, je t'embrasse fort. Grande dame, grande comédienne et surtout grande âme, grand cœur. Tes 4 filles? Qu'est-ce que, justement, toi, tu leur transmets à ton tour?
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est elles qui me transmettent. Ouais. Moi, j'ai grandi quand même avec mes frères et tout. Et au final, en tout cas, j'ai grandi plus dans un univers masculin, quoi, plus dans un truc... tu vois, malgré tout, il fallait être un peu plus dans la confrontation, en fait, tu vois. Et là, au final... Ah, déjà, avec les grandes, tu vois, j'étais beaucoup plus dans la douceur. Après, à la naissance de ma première, Angelina, non, elle m'apporte beaucoup plus que je leur apporte, sincèrement. Évidemment que moi, j'ai un devoir moral de père, de transmission, comme tu le dis, parce que j'ai besoin de faire le packaging, de boucler la boucle, d'amener, tu vois, de connecter les gens entre eux. Il y a les grands-mères, enfin, les arrière-grands-mères, tu vois, une a eu la chance, enfin, la dernière ne l'a pas connue, mais toutes, ils ont connu la grand-mère. Mais moi, c'est mon devoir, en fait. C'est ce qui me va faire que je suis épanoui, on va dire. Mais elle m'apporte quotidiennement. Elle m'apporte du carburant, de la douceur, du bien-être, en fait. C'est plein de gestes, c'est des mots, c'est des regards, c'est des moments. Ouais.
Et toi, tu t'as fait croire à tes deux dernières filles que tu faisais partie des Jackson 5.
Oui, de tous les groupes noirs. C'était la tradition à Noël. Dès qu'il y avait un noir pas très identifiable, alors j'ai pris les Jackson 5, j'ai pris New Edition, j'ai pris, comme il s'appelait, Musical Youths, là, pas de Dutchy Body Left.
Hein, tu vois,
exact. Dès qu'il y avait des petits noirs, je disais, c'est papa quand j'étais petit avec mes frères. Et dès qu'il y avait, c'est vrai? Je dis, regarde là, c'est moi à gauche, là, tu vois. Et comme ça va vite dans les clips, ils captaient pas et tout. Non, tous les
elles groupes, y ont cru jusqu'à quel âge?
Jusqu'au moment où elles ont grandi, elles ont compris que sur YouTube, il y avait un tas de choses avec des noirs qui n'étaient pas papa. Il faut leur donner des paillettes de temps en temps.
C'est vrai. Ouais. Mais tu as su donner des paillettes, peut-être avec un truc moins clinquant que les Jackson 5, à travers ton film Indomptable qui va sortir le 11 juin. Parce que quelque part, on me dit que dans le personnage principal, l'inspecteur, il est commandant.
Il est commissaire.
Il est commissaire.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu ton papa, en fait. T'as pris beaucoup de ton papa
pour
jouer ce rôle. Je vais pas spoiler, c'est une enquête policière, c'est un polar. Magnifique, vraiment,
merci.
Sincèrement.
Merci.
Tourné à Yaoundé, donc au Cameroun. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette idée te vient d'il y a très très longtemps. En fait, c'était en plus un truc super comique. T'avais vu un reportage qui s'appelle « Un crime à Abidjan ». Et c'était en fait la vie d'un policier en Côte d'Ivoire, mais dans les conditions désastreuses, qui n'avait aucun moyen pour bosser, etc. Et ça t'avait tellement fait hurler de rire à l'époque que tu as eu une graine qui s'est semée comme ça, et puis de fil en aiguille, 25 ans plus tard, tu as finalement décidé de faire ce film.
Ouais. Ça m'avait beaucoup marqué parce que comme je te l'ai dit, j'allais au Cameroun petit, et ça m'était familier en fait quand j'ai vu ce documentaire. Il y avait un truc très familier, et puis c'est surtout la mentalité du commissaire où j'ai dit putain, il est comme papa.
Il était
quoi.
Sans pitié.
Ouais, et puis il a le pragmatisme de beaucoup de pères africains, de beaucoup d'hommes africains. Tu vois, ça va vite quoi. J'ai pas le temps. En fait. Le soleil il tape là, on va être rapide, tu vois. T'as volé, paf. Je dis pas que c'est juste. Je dis pas que c'est mal, mais c'est comme ça. C'est tout droit. Et j'ai reconnu, il y avait plein de choses qui m'étaient familières. Et c'est vrai que ce documentaire il me faisait rire qu'à moitié au final. Il me faisait rire qu'à moitié parce qu'elle est pas risible. Mais il y avait un truc en moi qui riait. Et puis en même temps, il y a un truc qui me touchait et que j'ai su exprimer à un moment parce que j'avais envie, à la sortie de mon dernier spectacle, j'avais justement franchi un pas dans la transmission, si on peut dire, entre moi et mes filles. Et j'avais pas envie de retourner en fiction à quelque chose de pure comédie. J'avais envie de continuer à creuser ça, mais j'avais envie de creuser via moi, en fait. Tu vois, moi, j'avais des trucs pas réglés, j'ai encore mes traumas d'enfance, j'ai encore tout un tas de choses à exprimer. Et en fait, le prétexte de ce documentaire était un peu comme une évidence à un moment, de ne pas parler frontalement de moi, mais d'utiliser ce documentaire pour... le m'approprier, refaire une libre adaptation et parler un peu de choses un peu profondes, familiales.
Que tu as vécu.
Que j'ai vécu, que pas que moi, d'autres gens ont vécu, la difficulté de la communication dans certains foyers. Et donc j'avais envie de mettre ça un peu en lumière, quoi, que ce soit au Cameroun, se dit, ou ailleurs. Ces choses-là, c'est des sujets assez universels, quoi.
Avant de poursuivre sur Indomptable, même si on va faire attention de ne pas... spoiler. La prochaine question, Je la laisse à un très, 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 très grand monsieur qui a accepté de te poser une question et je suis assez contente de ça.
Bonjour à tous. Salut Juliette. Bonjour Thomas. Hey, c'est Valsero. Frérot, je voulais te féliciter pour ta magnifique carrière, que ce soit dans le cinéma ou dans le stand-up. Je suis de temps en temps plus fier quand je sais qu'on vient tous les deux du continent. Et c'est une fierté personnelle. On a tous encore la banane, tu vois, quand on pense au crocodile du Botswana. C'est toujours quelque chose qui est une référence. Quand je marche dans la rue, parfois, les gars me croisent. Je dis, hey, vous savez, Thomas Nguinjol, c'est mon cousin. Hein. Même père, même mère, on a grandi maison contre maison. Parce que c'est une fierté d'être Camerounais. Et puis là, t'as fait indomptable. Lions indomptables. L'emblème du pays. Le cœur du pays, frérot. T'as touché notre truc et je suis resté en me disant, il n'y a pas de cinéma au pays. Il n'y a même pas l'industrie du cinéma. Il n'y a même pas de salle où on va voir ce cinéma. Il ne peut même pas être visible au Cameroun. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à te lancer dans cette aventure? C'était papa.
Le général Valsero, papa, spécialement pour toi, Thomas, grand monsieur de chez toi. Ouais. Merci pour la vidéo et force encore à toi.
Force
frérot.
À Valsero, évidemment.
Ouais, on est ensemble.
Évidemment.
Pourquoi le Cameroun, c'est vrai? En fait, bon, le Cameroun, parce que de toute façon, la cartographie du film est incroyable, mais lui parle d'industrie camerounaise. Et c'est vrai que quand je l'ai eu au téléphone, il m'a spontanément dit « Thomas a fait beaucoup de films, en fait, au Cameroun. Celui-là, il est particulier et il n'est juste pas obligé, en fait. » C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, tu as le champ des possibles. Tu as même l'Empathie qui est diffusée, qui est un carton au Canada. Enfin, tu peux tourner à peu près partout, mais c'était important pour toi de tourner chez toi. Et pourquoi tu fais ce choix-là qui est plus difficile que d'autres, en fait, finalement?
C'est le choix du cœur, c'est le choix de, comme je le dis, je n'ai pas réfléchi, en plus j'étais habité en fait, moi c'était viscéral pour moi de faire ce film, je ne pouvais pas faire la suite, j'ai fini mon spectacle, je savais qu'il fallait que je fasse ce film-là, ce n'était pas autre chose, j'ai mis de côté d'autres choses, tu vois, j'aurais pu faire des choses dites différentes, ou peut-être j'étais plus attendu, mais il y a des moments dans la vie, il faut s'écouter, en fait. Faut s'écouter. J'ai des enfants, j'ai mes parents. Il y a des choses à construire, il y a des ponts à construire. C'est important aussi, je l'ai fait aussi pour mes enfants qui connectent à travers mon art à des choses. Voilà. Peut-être que je vais leur dire un peu maladroitement, peut-être certaines choses. Il y a peut-être des choses à travers ce film-là qu'elles vont recevoir inconsciemment, une petite graine qui va germer. Et voilà, tu vois, elles connaissent leur pays déjà, mais elles ne le connaissent pas comme moi, je l'ai connu. Et moi, déjà, j'ai beaucoup de carences par rapport au Cameroun. Et elles en ont déjà beaucoup plus que moi à leur âge, mais j'espère que les choses vont s'équilibrer. Donc, je pense que la chance que j'ai de faire ce métier, c'est aussi de nourrir ma vie, mais de nourrir d'un point de vue large, pas que moi et ma famille, c'est de... Voilà, moi je me rends compte l'enthousiasme que j'ai eu à faire ce film au Cameroun. C'était
avec des équipes camerounaises, voilà, avec des comédiens camerounais.
Avec des comédiens et tout, locaux. C'est pas la grosse industrie, mais le supplément d'âme qui existe en faisant ce film-là, il vaut tout l'or du monde.
Bien sûr.
Et là, tu vois, au moment où on parle, je vais rentrer en tournage d'un autre film en France et je suis très heureux de le faire, mais parce que j'ai fait ce film-là avant.
Il est déjà l'heure de se quitter.
Damn.
On a un rituel.
Ouais.
Qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde.
Aux centaines.
Ouais, on est sur du centaine de millions.
La pression.
Ouais, petite pression comme ça.
Universelle.
Je me raque un peu. Non, petite pression universelle.
T'as raison.
Quel serait le message que tu passerais?
Si j'ai à passer un message, c'est vraiment, c'est d'une banalité sans nom, mais il faut se donner les moyens de bien vivre. De se donner les moyens de bien vivre. Je pense que, aujourd'hui, on sait l'état du monde, on sait dans quel monde on évolue. Et je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait, à l'échelle... Enfin, on peut faire des choses, mais je pense que chacun doit se responsabiliser. Et je pense si chacun se prend en main, en fait, à notre échelle, parce que c'est dur, en fait, le collectif, c'est dur. On a envie d'y croire, parce qu'il ne faut pas dire que c'est une utopie. Mais les aventures collectives, il y a des fois des déceptions et tout. Mais je pense que, voilà, essayons d'essayer de rendre les choses plus belles, mieux pour plein de gens, c'est de regarder juste en face de sa porte, d'essayer d'être costaud dans sa famille essayer d'être costaud avec son voisin, essayer de, voilà, et c'est plein de petites choses qui feront peut-être que les choses aillent mieux, mais c'est sûr que les espèces de d'utopie collective, les réunions, comment on va changer les choses et tout, on en a tellement vu, tellement connu, que c'est tellement déceptif des fois à la fin. Et je me dis que voilà, à l'âge que j'ai, quand on me demande des fois de m'engager, je dis mais bien sûr que je suis engagé. C'est, je ne me demande même pas en fait, je le suis.
Bien sûr. Mais et en ça fait, se voit en même temps.
Ouais, et puis mais c'est juste à une échelle humaine où tu te dis quotidiennement en fait, mon combat, c'est mes enfants en vrai. Et si je réussis à faire que ces gens-là, ils parlent, ils soient respectueux, ils agissent avec le cœur, qu'ils fassent du mal à personne, et ainsi de suite pour mon entourage. En fait, j'ai gagné, j'ai fait ma part du travail. Mmh. Je n'ai pas choisi d'être un président de la République, je n'ai pas choisi d'être ministre. Donc en fait, mon travail, il est là. Il est dans le cadre du foyer, et c'est un putain de travail. Ce n'est pas un travail à relativiser. Si ma fille ou mon fils ou mon, je ne sais pas quoi, c'est un enculé, j'ai échoué. Mmh. J'ai échoué. C'est à quel moment, en fait? C'est parce qu'il est en bonne santé? Je veux dire, je veux me rassurer. Non, c'est un connard, en fait. Voilà, en tout cas, notre travail à nous, enfant par enfant, mais c'est notre entourage, entourage proche, d'essayer de faire les choses bien. Et je pense que si à cette échelle humaine, en fait, qui est à la portée de tout le monde, on fait les choses bien, je ne dis pas qu'on peut changer les choses, mais déjà, c'est beaucoup. Parce que moi, je te dis, les trucs, les ambiances point en l'air, le côté on y va, et en fait, t'es un enculé, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu te caches derrière une espèce de bannière universelle. Sûr, posture, oui, il faut la paix dans le monde. Évidemment qu'il faut la paix dans le monde. En attendant, t'es un connard. Je le sais que t'es un connard. Mm-hmm. Parce que tu t'occupes pas, en fait, bien
de tes proches.
Enfin, t'inculpes pas des bonnes valeurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné... Sois respectueux, tout ça, et puis le reste suivra, quoi. Donc je pense que déjà, il faut avoir cette prise en main-là. Elle est plus forte que des likes sur les posts et des retweets et des machins et des marches. Je suis désolé, j'aime beaucoup marcher pourtant, je sais que j'aime marcher, mais ça me fait chier d'aller marcher à côté d'un mec ou d'une meuf où je dis... Ah, ça me gonfle, en fait. Il y a un truc qui n'est pas sincère là-dedans, tu vois. Et je pense que chacun doit faire notre travail individuellement.
Chacun fait sa part,
ouais,
en fait.
Et qui n'est pas évidente.
Bien sûr.
Et qui n'est pas évidente. Je ne dis pas ça en hauteur par rapport à qui que ce soit. Je suis une cause du problème. Moi, je suis dans un bourbier sans nom, chaque jour. Mais chaque jour, je prends mon épée, mon glaive et je vais au combat. Voilà.
Tu te débrouilles plutôt bien dans le combat quand même.
Inch'Allah, le combat soit gagné.
Voilà, j'allais dire le combat, t'allais dire le combat continue.
Le combat continue aussi. Alors on finit en 9-4.
En 9-4 direct, la boucle
est bouclée. C'est plus fort que
moi. C'était un plaisir.
Merci Juliette. J'ai failli dire Charlotte.
Non, encore, pensé, mais c'est chez moi. Pourquoi tu l'as appelé Charlotte?
Je l'ai pensé tellement fort. C'est bon, tu t'es rompu. Tu l'as pas entendu, mais tu l'as entendu.
C'était un plaisir de te recevoir, Nicolas. Vraiment formidable.
Non, mais c'était cool, vraiment. Juliette, de passer ce moment-là. On l'attendait depuis un moment.
Ouais.
C'était pas évident.
Mais le timing était bon.
Le timing était bon. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais c'est chouette. Ça fait du bien de se prêter, j'aime pas dire à cet exercice, mais de vivre des petits moments qui sont au final des belles respirations, des bons moments d'échange, même pas de promotion, parce que c'est pas de la promotion au final. Oui, tu mets la bande-annonce... C'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on...
C'est l'humain.
Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, ce qu'on a vécu. C'est des petits moments sympathiques et j'espère qu'il y en aura d'autres.
Merci beaucoup, Thomas. Je suis flatté.
Merci
profondément. Et vraiment, merci, merci. Et longue vie à toi, à ton art, parce que tu nous inspires.
Merci beaucoup.
Depuis très longtemps, je fais un big up à Charlotte Touré, à Juliette, à Carole, évidemment, à Moutou. j'étais obligée de balancer mes sources. Il y a Ranel qui est venu nous faire un petit coucou, donc je le salue. Et Salouad Djedi qui est venu avec toi, et Marie-Cécile. Ouais. Voilà, la famille, on est ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue avec Thomas Gijol. Et comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love, Thomas.
Ciao.